Aujourd'hui, la masterclass de Christian Milovanov avec Aude Lavigne.
Donc bonjour à toutes, à tous, bienvenue. Ouvrons à présent votre masterclass. Christian Milovanov, artiste, photographe, écrivain, passeur, à la fois pédagogue, mais aussi auteur de nombreux écrits sur la photo, le cinéma, la littérature, l'ethnologie. En France et à l'étranger, dans votre carrière, une vingtaine d'expositions personnelles. On ne compte pas évidemment les expositions collectives et vos œuvres entrent dans des collections de prestigieux musées. Alors, commençons tout de suite par l'origine. Peut-être une histoire, une raison, raison d'une vocation, vocation de regardeur, regardeur patient, regardeur admirateur que vous êtes. Comment tout cela a commencé ? Y a-t-il un début ?
C'est une question assez vertigineuse et je ne sais pas si la réponse sera appropriée. Il y a des réponses, mais elles ne sont pas uniques. Je pourrais dire, peut-être, aujourd'hui, qu'il y a deux moments qui sont à mettre à l'actif du travail que je fais depuis fort longtemps. Ces deux moments, ces deux événements appartiennent à l'enfance, bien sûr, forcément. Premier moment, c'est que quand j'avais 8 ans, à partir de l'âge de 8 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, mes parents m'ont emmené en Espagne durant les grandes vacances, ça durait 3 mois, et j'ai visité toute l'Espagne. Et on m'a emmené voir les musées. Et à dire vrai, quand on a 8 ans, voir le Prado, voir les musées à Tolède et ailleurs, mais tous les musées, on faisait systématiquement tous les musées, ou bien on est on regarde rien, ou bien ce que je faisais, je regardais, d'autant plus que ma mère me disait de regarder. De regarder quoi ? De regarder la peinture. Donc avoir 8 ans et regarder la peinture, regarder Gréco, on n'y voyait rien. Regarder Zurbaran, je comprenais rien. Et elle me disait regarder, mais elle avait aussi, elle adjoignait à sa parole un geste très particulier. Elle me tenait la main. Et quand elle me disait regarde, elle exerçait une pression sur ma main, qui signifiait regarde. À tel point que très rapidement, elle s'est tue. Et elle exerçait seulement la pression sur ma main, et c'était clac, regarde. Et donc, je regardais. Je regardais quoi ? Je regardais à hauteur d'œil. Donc, je ne levais jamais les yeux au ciel. D'ailleurs, je ne le fais toujours pas. D'autant plus que je n'aurais rien vu. Il y avait des luisances dans le tableau. C'est pas possible. Et puis regarder Gréco, quand on a 8 ans, c'est assez impressionnant. Donc ce que je voyais des peintures sombres. Je voyais des mains allongées. J'étais absolument fasciné devant les plis raides d'un tombé de tissu chez Zurbaran. J'ai su après que c'était Zurbaran, bien sûr. Mais je voyais ça, ça me fascinait. Je me demandais comment on pouvait montrer des choses comme ça aussi raides. Donc, vous voyez, je voyais des détails par tableau. Et naturellement, quand j'ai décidé, beaucoup plus tard, à l'âge de 30 ans, de faire de la photographie et de m'engager dans un travail photographique, naturellement, la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller au Louvre et de photographier, bien sûr, les tableaux. Ça, c'est le premier moment qu'on pourrait dire au début du travail, d'où ça vient. Cette question est assez étrange. Mais il y a un deuxième moment, parce que je m'attendais aussi à cette question-là. Donc j'ai réfléchi, et ce deuxième moment, c'est un moment également d'enfance. C'est un moment émouvant parce que j'habitais dans une très grande maison, gigantesque, avec un parc, avec des arbres, qui s'appelait les Platanes. La maison s'appelait les Platanes. Et il y avait surtout un jardinier, Alphonse, il s'appelait Alphonse Crespi. Personne ne le connaît, bien sûr, mais autant dire son nom. Et tous les soirs, en fin d'après-midi, quand je sortais de l'école et que je rentrais donc chez moi, j'allais le rencontrer, non pas pour lui parler, parce qu'il parlait très peu, puis moi encore au moins, mais pour voir ce qu'il faisait. Ramasser des feuilles, faire des tas de feuilles de platane à l'automne, faire des brûlis de avec ses feuilles, etc. Mais surtout, il avait un jardin potager, immense jardin potager. Et donc j'allais le voir surtout pour une opération très particulière qui est l'irrigation de ce jardin potager. Et c'est absolument fascinant, parce que c'est un très grand potager, avec des légumes variés, sublimes, et le jardin est quadrillé, avec des creux, des bosses, des plaines, des déliés, et les creux servaient tout simplement à l'irrigation, et l'eau venait d'un puits qui était au centre du parc, avec des canalisations souterraines, j'imagine, mais ça, j'ai jamais vu. Et il tirait une sorte d'écluse, comme ça, et l'eau arrivait. Et franchissait toutes les rigoles, etc. Et là, je me suis aperçu d'une chose, c'est que, on plante pas n'importe quoi, n'importe où. En gros, on ne met pas n'importe quoi, n'importe où. C'est-à-dire que les plantes qui nécessitaient le plus d'eau étaient à l'arrivée de l'eau, et les plantes beaucoup plus loin, au fond, exprès je vais te dire au fond du tableau, au fond, très loin, les plantes qui nécessitaient aucune eau, c'était là où l'eau n'arrivait pas, parce que l'eau s'était infiltrée dans la terre, et il y avait très peu d'eau, donc c'était d'autres légumes, c'était des buis, c'était des arbustes, etc. Et cette idée de lieu de planter des légumes en fonction d'une utilité, quand beaucoup plus tard j'ai découvert Kandinsky, après avoir vu Kandinsky, après avoir lu les textes de Kandinsky, dont son plus célèbre Point, ligne, plan, je me suis dit, mais bien sûr, mais c'est évident. La composition de tableau, c'est exactement comme la composition de ce jardin potager d'Alphonse. Un point noir en haut du tableau n'a pas la même sonorité, n'a pas la même résonance, n'a pas la même efficacité, n'a pas la même utilité que un point, le même point, mis en bas, à droite ou à gauche, etc. Donc voilà, ces deux moments, si vous voulez, alors c'est pas de là que je viens, parce j'imagine qu'il y a d'autres événements, mais je sais pas lesquels. Mais souvent j'y pense, hein, et ces deux moments sont pour moi des leçons que j'essaye d'appliquer très sagement quand je fais une photographie.
Oui, alors on comprend bien, Christian Milovanov, que cette pression maternelle sur la main, c'est un peu le déclic photographique.
Oui, on peut le dire comme ça.
Et que bon, l'organisation de la nature et ses représentations en ordre, c'est quelque chose qui va vous passionner, surtout l'ordre. Et permettez-moi de prolonger et de donner quelques précisions sur l'ampleur de votre travail. À l'aide d'un curriculum vitae officiel, en tout cas celui que vous m'avez fait parvenir, sur votre date de naissance, né en 48. Vous êtes titulaire également d'un DEA de sociologie et d'ethnologie. Ceci n'est pas anodin par rapport à votre travail, on va le comprendre. Vous avez également un diplôme d'histoire de l'art. Alors, à partir des débuts des années 80, vous pratiquez donc la photographie, des photos qui sont réalisées en série, qui sont des variations, des intuitions savantes, personnelles, réalisées toujours dans des lieux et des espaces, vous nous le raconterez, que vous considérez comme des ateliers. Une autre caractéristique de taille, aucune présence humaine vivante. Vous avez un maître mot, vous allez en parler longuement, j'espère, parce que c'est passionnant et c'est toujours énigmatique. Vous dites « trouver de l'ordre dans le chaos ».
Pas dans le chaos, dans le chaos du visible.
Dans le chaos du visible.
Alors, important.
Je vais, si vous le permettez, lister l'ensemble des séries photographiques, de manière à ce que les auditeurs, les spectateurs puissent comprendre la mesure de votre travail. Série Le Louvre revisité, 78-82, elle vous distingue d'emblée. Et dans cette série, votre regard s'accroche à des détails de peintre. Vous y reviendrez au Louvre plus tard, en 2007. Vous écrirez d'ailleurs, vous nommerez cette série La Suite. Et là, vous vous intéresserez aux bas-reliefs assyrien du musée du Louvre. Revenons un peu en arrière, en 84, alors là c'est votre œuvre colossale, dantesque. Vous participez à la mission photographique de la Datar sur les paysages de la France. Vous répondez par un travail qui va durer 4 ans, mais vous réalisez 11 000 clichés. Et en choisissant, à la surprise des commanditaires, donc de la Datar, de ne photographier que des paysages intérieurs. C'est-à-dire, vous choisissez le cadre de travail d'une majorité de Français, pas tous évidemment, les bureaux. Alors cette recherche, et c'est vertigineux, vous entra 30 ans à classer, répertorier, lister ces 11 000 clichés, aujourd'hui heureusement en partie sélectionnés et proposés dans un magnifique livre titré « Bureau » que vous avez réalisé en 2015 aux éditions Nouvelles, édition Scala. 35 €. C'est pas cher pour ce que c'est. De cette publication et de cette recherche vertigineuse, vous avez également décidé de consacrer un très beau film en 2017 qui est titré « Travail dramaturgique autour du livre Bureau » et qui explique évidemment la fabrication du livre, mais aussi ses questionnements esthétiques et cette réflexion de 30 années durant à classer, à regarder les négatifs plutôt que les planches contact. Et on comprend comment on rentre dans votre univers. Donc, ce film d'ailleurs vient juste d'entrer dans la collection de Beaubourg. Encore quelques séries et puis on continuera à nous expliquer comment vous trouvez de l'ordre dans le chaos du visible. On comprend déjà le nombre, les classements, des lieux où tout est rangé. Autre série, 88, La Galerie Imaginée, qui est à la Staatsgalerie de Stuttgart. En 94, Le Jardin et le Supermarché, qui est présenté au Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne. Des photos au format carré, vraiment carré. Deux produits de consommation, serviettes de bain, boîte de lait, pack d'eau, bière, feuilles de salade. Il paraît que cette série est autobiographique. 2001-2002, autre série, Conversation pièce, qui était réalisée donc à Pittsburgh. 2012-2013, la série Attraction. Là, c'est simple, ce soit un autre mouvement qui présente des images qui en contiennent plusieurs et qui s'attirent, mais qui s'attirent selon les lois de Christian Milovanov. Et actuellement, vous photographiez au Cambodge et vous proposez des montages, des sélections d'images en mouvement que vous appelez formidables. Trouver de l'ordre dans le chaos du visible en s'arrêtant d'abord dans un musée.
Bon, c'est bon, j'ai dit ça effectivement, mais à mon avis, c'est pas de moi ce mot-là. Chaos du visible, ça doit être de Baudelaire, certainement, très certainement. Mais quand on est confronté à cet outil qui s'appelle la photographie, car pour moi, c'est un outil. Et qu'on décide de faire des photographies. D'ailleurs, de plus en plus, je dis de faire des images. Quand on fait des images, donc la question c'est où je mets mon appareil et comment je cadre. Qu'est-ce que je mets ? Moi, je vois rien. C'est vraiment très brouillé. Qu'est-ce qu'on voit dans une immensité ? Il y a des détails, il y a des lumières, il y a des postures. Quand il y a des gens, des sculptures, c'est pareil. Il y a des gestes, il y a des attitudes. Qu'est-ce que je vais privilégier ? Pour moi, c'est une espèce de chaos. Et donc, je me dis, il faut que je trouve à ce moment-là de l'ordre ou de l'organisation, si on n'aime pas l'ordre. C'est vrai que, mais je pense qu'il y a toujours de l'ordre. Le discours, il y a de l'ordre, disait Michel Foucault. L'ordre du discours, ben l'ordre des images. C'était pour moi ma question. Et donc, je dois à ce moment-là faire entrer du monde, des événements, des moments, des objets, des masses lumineuses, des masses sombres, etc., dans un cadre. Les positionner, les organiser, trouver des relations, mais toujours à l'intérieur d'un cadre. La photographie, c'est ça. C'est un mot de Baudelaire, un pan arraché à la planète. C'est un morceau qu'on arrache. Et donc ce morceau, c'est pas n'importe quel morceau. C'est pas n'importe. On doit trouver à ce moment-là des règles de composition interne qui font que il y a une image ou il n'y a pas d'image. J'ai toujours été sensible à cela. Vous avez parlé des Assyriens. C'est vrai que quelques...
Donc de la série de photographies que vous avez consacrée aux bas-reliefs assyriens.
Aux bas-reliefs assyriens.
Du musée du Louvre.
Pour aller très rapidement, je dis mes Assyriens. Donc j'ai eu la Marie-Laure Bernadac, qui était conservatrice au Louvre, en charge de l'art contemporain, m'appelle et me demande si... me donne une carte blanche pour travailler au Louvre et de, à nouveau, revisiter le Louvre. Et je lui dis oui, mais j'aimerais que ça se passe dans le département des Assyriens, parce que je venais de passer quelque temps à Berlin et ensuite à Londres, et j'avais vu les bas-reliefs assyriens qui sont absolument magnifiques. Et moi, ce qui m'intéressait dans l'image que j'avais faite, c'était la position des mains, les croisements de mains, cette espèce d'impossibilité qu'il y a chez les Assyriens à représenter des mains, cette impossibilité qu'il y a chez les Assyriens de penser l'espace tel que nous l'avons pensé, à savoir depuis le 13e ou 14e siècle, la perspective, parce qu'ils n'ont pas la perspective italienne, bien sûr, c'est autre chose. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était des arrangements dans un espace. Ce qui m'intéressait, c'était que la barbe de un était frisée, la barbe de l'autre était plutôt sombre, la barbe de l'autre était raide, etc. Et qu'il y avait des variations de barbe, comme il y avait des variations de position de main sur une épée ou sur un drapeau. C'est ça qui m'intéressait. C'était comment l'artiste inconnu, parce qu'il n'y a pas de nom derrière, mais ce sont des artistes, avaient conçu leur sculpture. Alors bien sûr qu'après il y a toute une iconographie, mais l'iconographie ne m'intéressait pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'était justement de retrouver la composition de l'artiste assyrien et d'en prélever un morceau et de le montrer. C'était ça.
Vous allez dans ce lieu qui vous est familier. Vous arrivez comment ? Vous prenez quel matériel ? Vous y allez seul, accompagné ? Vous restez combien de temps ? Et la première fois, vous regardez vers où ?
J'y vais à métro.
Donc matériel plutôt léger ?
Un trépied et un appareil photo. Alors, au tout début, pour dire vrai, bien sûr, j'ai choisi le Louvre. Je vous ai dit pourquoi ? Parce que je suis passionné par la peinture. Et puis, voilà. Moi, ce qui m'intéressait au départ, mais une idée, mais alors, saute, naïve, bête, c'était de, à travers l'image que j'allais faire, montrer que c'était impossible de regarder un travail, de regarder une peinture, parce que ce que je voyais, moi, c'était des brouillages. Et je photographiais des brouillages. Par exemple, j'ai un trépied, mais j'ai pas de lumière. Je ne travaille qu'en lumière naturelle. Et à l'époque, je dis à l'époque parce que, malheureusement, on a refait l'éclairage du Louvre, et aujourd'hui, c'est un éclairage de supermarché. C'est un éclairage étal. Tout est bien posé, tout est bien positionné, etc. Ce qui fait que presque tous les tableaux se ressemblent, malheureusement. À l'époque, au tout début des années 80, en fait, j'ai commencé en 78, l'éclairage était pas aussi sophistiqué, était pas... Donc, les conservateurs n'appréciaient pas parce que cet éclairage était abîmé les œuvres. Notamment, il y avait des fenêtres et donc il y avait le soleil tapé contre les fenêtres, faisait de l'ombre. Et moi, ce que je voyais la plupart du temps, c'était des ombres portées sur le tableau. Quelque chose d'extérieur qui venait brouiller le tableau et qui faisait que c'était impossible de regarder un tableau parce qu'il y avait une barre. Très rapidement, je me suis aperçu que j'allais pas aller très loin avec cette chose-là parce que il suffisait que j'attende que le soleil arrive pour avoir une ombre et tout. Bon, c'était pas très intéressant. On en fait vite le tour à ce moment-là. Mais les premières images, c'est ça, et je les conserve. Et dans le livre, le Louvre revisité, il y a ces images-là. Des images barrées, rayées, où la représentation était impossible. Et puis, je me suis aperçu qu'on pouvait peut-être, en regardant encore plus, c'est-à-dire en entrant dans le tableau, en détaillant le tableau, on pouvait également brouiller la représentation. Il suffisait de décaler légèrement le cadre, de montrer en même temps un morceau de tableau, un pan du tableau, avec son cadre, avec la tapisserie qui est en dessous, le velours qui est râpé, j'arrivais à décadrer, et tout d'un coup je me suis aperçu que, faisant cela, je construisais un autre tableau. Je construisais un autre tableau, c'est-à-dire que d'une fresque de Botticelli absolument sublime, qui est au Louvre, j'en faisais un tableau de Mondrian. Donc c'était ça, c'est-à-dire que j'essayais de revoir, c'est pour ça que ça s'appelle le Louvre revisité, de revisiter ces peintures-là, compte tenu de ce que je connaissais et de ce que j'aimais dans l'art moderne. Mondrian, Barnett Newman par exemple. Je parle de Barnett Newman parce que c'est quelques années plus tard, j'ai découvert un livre de Pierre Schneider, qui est un historien de l'art, qui est mort il y a quelques années dans l'indifférence totale, mais un jour on relira Pierre Schneider, c'est notamment un très grand spécialiste de Matisse. Et Pierre Schneider a eu l'intelligence de faire un livre avec qui s'appelle « Les dialogues du Louvre », et il a rapporté toutes sortes de visites de Louvre, du Louvre qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, parce qu'il rapportait les propos de Cézanne au Louvre, qui sont absolument... c'est magistral ce que dit Cézanne du Louvre, mais il fait une visite avec Barnett Newman, et là je m'aperçois que ce que dit Barnett Newman est bouleversant. Barnett Newman, visitant le Louvre, donc on doit être dans les années 50, ne voit, et il le dit, il ne voit que ses propres tableaux, il ne voit que des Barnett Newman, il ne voit que des tableaux rayés, le fameux zip, par des ombres noires qui l'empêchent de regarder le tableau. Et il dit, mais c'est formidable, j'ai amusé rien que pour moi. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, d'abord, je trouvais ça tout à fait normal qu'il dise ça. Ça m'a réjoui. Peut-être que si j'avais lu ce livre avant de commencer le Louvre, je n'aurais pas fait le Louvre, parce que c'était ça que j'ai fait et que je voulais faire et que lui a dit, voilà. C'était cette chose. Mais c'était toujours cette idée de brouiller la représentation. Et de brouiller la représentation, c'est pas interdire la représentation. C'est lui redonner une nouvelle signification.
Alors vous reprenez le trépied sur l'épaule, vous reprenez le métro, et là, à partir de 1984, Christian Milovanov, vous plongez dans peut-être la plus grande aventure photographique de votre vie, la commande à laquelle vous répondez donc de la Datar, photographier les espaces de travail intérieur des Français en 1984, ça va durer 4 ans. Et c'est une sacrée aventure. Alors, quand vous avez cette... Déjà, répondre, pourquoi pas les paysages ? Qu'est-ce qui vous ont fait, les paysages ?
Ben, je crois que vous avez compris mon obsession pour les intérieurs, mon obsession pour les cadres, mon obsession pour les points d'appui, à partir duquel une image peut se faire. Moi, dans un paysage, j'adore les paysages, même si je suis pas terriblement urbain. Justement, je suis terriblement urbain et pas du tout nature, campagne, etc. Surtout pas. Je m'ennuie un peu, à dire vrai. Je m'ennuie parce que je sais pas quoi faire avec. Et alors, faire une photographie, c'est... j'admire un coucher de soleil, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un coucher de soleil ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand je suis dans le grand air occidental ? Parce que j'ai connu ça. On m'a dit, ah, tu vas dans le grand air occidental, tu as fait des photographies. Mais non, j'ai pas fait de photographies, mais... Où voulez-vous que je place mon appareil photographique quand il y a des dunes ? Je veux que je fasse. Je sais pas. Je vais pas être grossier et transformer les dunes en fesses de féminines. Il y a des photographes qui ont fait ça. C'est quand même catastrophique. Donc je vais pas faire ça. Donc je ne sais pas. Donc moi il me faut des points d'appui. Alors bien évidemment, il me faut un intérieur. Mais plus qu'un intérieur, il me faut un atelier. Parce que vous avez mentionné le mot atelier, s'il y a quelque chose qui parcourt tout mon travail et toute ma pratique, c'est que je fais des lieux que je photographie mon atelier. Je passe 4 ans au Louvre, je passe 4 ans à photographier les bureaux, mais Ce sont des ateliers d'une matinée, ce sont des ateliers d'une journée, de 4 ou 5 jours, pas plus. Quand je suis à Libération, je passe 4 ou 5 jours là-bas. Donc j'en fais vraiment mon atelier. Quand je suis dans le département des Assyriens, le mardi, j'ai plus rien à faire. Quand je suis encore dans le site d'Angkor, c'est gigantesque, justement. Je pourrais être perdu, pas du tout. Pas du tout, parce que je me raccroche aux parois, aux sculptures, et j'en fais mon atelier. Et puis, j'oublie tous les touristes qui sont là. Et puis, quand on a un trépied, les touristes, ils s'en vont. Donc, c'est quand même assez agréable. Là, actuellement, je poursuis ce travail sur la sculpture Khmer. Et donc, je travaille également le jour de fermeture, parce que j'ai la chance de travailler pour ça, au musée Guimet. J'en fais mon atelier. Je me pose, je mets mon appareil, je pose ma veste à côté, je regarde et je fais la photographie. Pour les bureaux, c'était exactement la même chose. J'ai choisi les bureaux parce que c'était des intérieurs, parce que je pouvais trouver, je savais que je pouvais faire une image. Le problème, c'est que j'ai pas fait une image, j'en ai fait 11 000. Parce que j'avais la possibilité de faire 11 000 images. C'était une époque, on ne le dira jamais assez, où il y a eu énormément d'argent. On est dans les années 80. Et donc, il y avait de l'argent dans les institutions.
Vous visitez combien de lieux? Enfin, combien de lieux sont vos ateliers temporaires pour cette série photographique impressionnante?
J'ai dû en faire... c'est pas répertorié dans le livre entièrement, mais j'ai dû en faire 400 ou 500 lieux dans toute la France en 4 ans. Ben, c'était les palais de justice, c'était les postes, c'était les bureaux de l'Agence pour l'emploi, c'était les bureaux des administrations, les chambres économiques, les palais de justice,
les préfectures,
les mairies, tout ce qui avait où il y avait un bureau, je le faisais. Alors il y a eu des oublis, deux oublis. Je n'ai jamais compris pourquoi je n'avais pas photographié les bureaux des commissariats de police. Je sais pas. Je suis un peu malheureux de pas avoir fait ça. J'aurais bien aimé photographier, non pas parce que c'était la police, mais montrer que ça aurait été pareil que
l'idée était que ce soit complètement exhaustif quand même, tous les types de bureaux administratifs ou de presse passés en revue,
même parfois privés pour des bureaux de notaires, mais c'était tout que des bureaux qui sont dans ce qu'on appelle en sociologie l'espace tertiaire, simplement. Alors, ça peut être aussi des lycées, ça peut être aussi mais des lycées, pas la classe, bien évidemment. C'était le surveillant général. Ça peut être les bureaux d'accueil dans un hôpital, dans les journaux. Je travaillais pas mal à Libération, dans les locaux de Libération. Donc, mais c'était les bureaux qui m'intéressaient. Comment on agençait les espaces de travail des journalistes, par exemple. Le bureau de Serge Julie, pour pas le citer, est quand même assez phénoménal. C'est Orson Welles. Il a le fauteuil d'Orson Welles. Et c'était vraiment... Personne ne pouvait s'asseoir. Il n'y avait que lui. Donc je l'ai photographié, bien évidemment. Et donc c'était ces espaces-là. Donc les prises de vue, elles duraient en fonction de si j'avais trouvé l'image ou pas de l'image. En fait, je ne trouvais pas l'image, mais je savais qu'il y avait des images. Il y en avait 11 000. Mais c'est ça, le piège, ça a été là. Et en même temps, c'est la chance. La chance, c'est qu'il y ait autant d'images et que j'ai pu à ce moment-là travailler ces images pendant 30 ans et essayer d'en faire quelque chose. La malchance, la tristesse, c'est d'avoir fait autant d'images et pas savoir qu'en faire. Mais voilà.
Mais là, mais vous avez trouvé.
Pas savoir qu'en faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas trouver la forme que devrait prendre à ce moment-là ce travail-là. Je pense que c'est pas que l'exposition, et il y a eu des expositions en cours de mission en 85 ou 86, il y en a eu à Marseille aussi, à la Vieille Charité, mais je pensais pas que l'exposition de ce travail, de mon travail, pouvait se faire dans le cadre d'une exposition personnel. Dans le cadre d'une exposition collective, comme il y a actuellement, je n'ai rien à dire. Bien sûr, on peut mettre 8 images des bureaux. Il y en a tellement autour. Donc ça va, elle me convient. Mais une exposition personnelle uniquement de mes bureaux, d'abord c'est l'ennui total. Et puis, comment sélectionner Donc je pense que l'exposition n'est pas la forme appropriée pour mon travail, je dis bien pour mon travail, en tant qu'exposition personnelle, pour mon travail sur les bureaux. En revanche, il fallait que je trouve une forme. Et cette forme, il m'a fallu du temps pour la trouver, cette forme, ça a été le livre. Parce que, même obsession, le livre, c'est un territoire bien défini, avec des pages et des doubles pages, il n'y a pas de hors-champ, tout est compris, donc je peux me permettre de faire des doubles pages, de jouer avec la page de gauche, avec la page de droite, avec des images plein pot, comme on dit, c'est-à-dire qui recouvrent deux pages. Donc je pouvais construire à ce moment-là, dans cet espace qui s'appelle la page du livre. Je pouvais construire. J'étais heureux.
Espace clos, vous dites?
Un espace totalement clos et un espace qui se referme. Il n'y a pas de hors-champ.
Pour le réaliser, ce livre, vous compilez, vous regardez vos photos, vous expliquez cela dans le film, donc qui fait une quarantaine de minutes et qui s'intitule « Travail dramaturgique autour du livre bureau ». Et là, vous expliquez, j'aimerais vous entendre, Christian Milovanov, sur votre méthode, que vous préférez regarder les négatifs plutôt que les planches contact.
Oui, parce que j'ai... Oui, mais ça c'est très personnel en même temps, parce que d'abord ce sont des images en noir et blanc, et que je sais regarder un négatif, et je sais transposer en regardant un négatif, s'il est bien exposé, mais il était bien exposé, bien développé, mais il était bien développé, je sais à ce moment-là transposer et passer du noir au blanc ou du blanc au noir. En couleur, je pourrais pas le faire, mais en noir et blanc, je sais le faire. C'est pas que je l'ai appris, je l'ai appris sur mon travail. Je regarde comme ça. Je n'aime pas les planches contact parce que les planches contact, il y a trop d'images. Par définition, il y a 10 ou 15 images, plus ou moins tirées, plus ou moins mal tirées. Planche contact, c'est bien pour savoir si c'est net ou si c'est flou, s'il y a des accents de lumière par exemple. Mais j'ai jamais eu l'habitude. Je dis pas qu'il faut pas faire de planche contact. C'est bien pour se documenter. Quand j'ai pour faire le film, j'ai revu toutes les planches contact de la Data, parce qu'il y a eu des planches contact faites par la mission de Data. Je les ai vues à la Bibliothèque nationale. Je suis allé les regarder. C'est très émouvant de regarder tout ça, parce que elles sont documentées, on sait quel lieu c'est, parce que moi il y a des moments où j'oubliais que c'était Toulouse alors que c'était Bordeaux ou l'inverse, et donc c'est assez utile, comme c'est un lieu de planche contact, c'est un lieu de documentation, voilà. Mais je regarde, c'est vrai que je regarde mes négatifs, et je sais en regardant mon négatif si en positif ça va être bien ou pas, je le sais, mais ça, j'en tire pas gloriole, hein, je le sais sur mon propre travail. Si vous faites des photographies, si vous me donnez vos négatifs, je sais pas si je pourrais dire. Si, la seule chose que je pourrais dire, c'est est-ce que l'image est bien construite à l'intérieur de ce négatif-là ? Parce que quand je regarde un négatif, je regarde également la construction dans l'image. C'est assez important. Moi, j'ai toujours été étonné qu'on n'en parle pas. Mais quand Eugène Adjé travaillait à la chambre, mais qu'est-ce qu'il voyait ? Il faut avoir utilisé une fois dans sa vie une chambre photographique pour s'apercevoir que ce qu'il voyait était tout à l'envers. Alors maintenant, faites l'expérience. Je l'ai faite et c'est absolument passionnant. Et ça peut durer des journées. Vous prenez un livre d'Adjé, très bien imprimé, édition complète du MoMA, c'est absolument extraordinaire. Vous prenez le livre et vous le regardez à l'envers. Eh bien, vous voyez ce qu'il a vu. Vous voyez comment il a construit l'image. Vous voyez que c'est pas tellement évident que ça soit uniquement le 6 rue du Flot qu'il a photographié. Mais comment c'est fait? Comment l'espace est construit à l'intérieur de ce cadre-là? Comment l'espace est totalement fermé à l'intérieur de son image? Tout est fermé chez même quand il y a une rue qui part, elle est bouchée au fond parce que il s'amuse. Il fait en sorte que par son cadrage tout soit contenu à l'intérieur du cadre. Pour moi, je le vois comme ça. Il n'y a pas de force centrifuge. Tout est centripète. Tout est ramené à l'intérieur de ce cadre-là. Or, il faut regarder Hadjiet à l'envers. Mais c'est ce qu'il voyait. Parce que, bien évidemment, il construisait son image sous son voile. Et ce qu'il voyait, c'était une image à l'envers. C'est absolument passionnant de voir ça. Quand je regarde négatif, je vois aussi cette construction-là.
Oui, un noir bouché, débouché. Il y a un terme technique.
Oui, ça c'est un langage de plombier, mais quand on travaille avec un trépied et qu'on photographie une sculpture, un morceau de peinture, un étal du supermarché, le temps nous appartient. Et donc, tout photographe sait que si on est en temps de pose long, à ce moment-là, on a des détails partout. Et que pour avoir des détails dans les noirs, pour avoir quelques luisances dans les noirs, il suffisait d'augmenter le temps de pose. Mais moi, le temps de pose, je pouvais l'avoir parce que je peux faire des prises de vue qui durent 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes. Personne, ça ne bouge pas, à moins qu'il y ait un tremblement de terre, mais rien ne bouge puisqu'il n'y a pas de personnage dedans, il n'y a pas de vivant. Donc et après, effectivement, une fois que j'ai cette information contenue dans le négatif, voilà pourquoi c'est important de regarder pour moi le négatif. Quand j'ai enregistré longuement une pièce noire, donc je vais avoir du détail dans les noirs. C'est pas un aplat, c'est pas un monochrome. Je vais avoir du détail. Après, au tirage ou pour l'impression du livre, je choisis si oui ou non je veux avoir du détail ou pas du détail. Si j'ai pas d'information dans le négatif, je peux pas inventer le détail. Si j'ai pas de détail. Mais quand j'ai du détail, je peux le supprimer. Donc, d'où l'intérêt de, je savais pas que la discussion sur les négatifs allait nous porter là, mais c'est vrai. D'où l'intérêt de regarder ces négatifs.
Alors, autre grande aventure, Christian Milovanov, encore dans la durée, dans la fidélité, certainement. En 1983, vous êtes professeur à l'école de la photographie d'Arles et vous le serez jusqu'en 2014. L'école s'ouvre à peine. Vous faites partie des premiers enseignants.
Je suis le premier.
Vous êtes le premier.
Je suis le premier et j'ai l'audace de refuser mon poste. J'ai été le premier professeur et 15 jours après avoir confirmation que j'étais le premier professeur, j'ai dit à Alain Desvergne, qui était le premier directeur, je lui ai dit que c'était très sympathique, mais que je refusais le poste parce que j'avais quelque chose de plus important à faire, qui était de terminer le travail sur le Louvre et de publier le livre Le Louvre Revisité. Pour la petite anecdote, pendant 6 mois, je n'ai pas eu de réponse d'Alain Desvergne. Entre-temps, le livre a été publié, entre-temps j'ai eu des prix, il a été connu, quelques mois plus tard, cette aventure-là, il m'a écrit en me disant « Mais ton poste est toujours là, si tu le veux, tu l'as. » Et là j'ai dit « Oui, bien évidemment. » J'ai cru qu'il allait m'en vouloir, il ne m'a jamais voulu de ça. Bien au contraire, parce que il voulait un enseignant et celui qui aurait dû être le deuxième enseignant et qui a été du coup le premier, à savoir Arnaud Classe, était dans la même posture, c'est-à-dire un enseignant qui est artiste en même temps, qui est dans le faire et pas uniquement dans le savoir. Dans le savoir, oui, Et pas que ça, mais dans le faire. Et donc, ben oui, j'ai été donc un des premiers, on va dire, là, jusqu'à ce que l'âge aidant ou faisant, ben je sois obligé de partir, même si j'interviens de temps en temps dans...
Ouais. La pédagogie, donner des cours à des jeunes photographes, comment ça a pu nourrir, dialoguer, intercéder avec votre travail? C'était des... Quel pédagogue étiez-vous? Êtes-vous?
Ça, il faudrait le demander aux photographes et aux étudiants que j'ai eus, et avec qui j'ai encore des contacts, et donc qui ne sont plus du tout des étudiants. Enseigner l'art, c'est quelque chose de, pour moi, de formidable, parce que, d'abord, une des principes que j'avais, c'était de partir des œuvres, de regarder, regarde. Donc lire, oui, s'instruire, oui, connaître, oui, mais regarder comment ça se passe, regarder le travail du photographe. Je dis du photographe ou de l'artiste, parce que j'étendais bien évidemment mes cours à autre chose que de la photographie. La photographie est pas seule. Il y a des peintres, il y a des écrivains, il y a des cinéastes, et il faut en parler de tout ça. Donc je parlais de ça, mais je partais des œuvres, et puis je parlais du faire des artistes. Et en parlant du faire des artistes, je parlais du faire mon propre faire, c'est-à-dire que il m'est arrivé de poser des questions à des étudiants que moi-même je me posais, et j'essayais d'avoir des réponses. Je vais vous dire une anecdote. Il y a quelques années, j'ai fait un entretien avec un ancien étudiant, mais qui n'est plus un ancien étudiant, qui est un photographe aujourd'hui et enseignant à Bordeaux, Pierre-Lin Renier. Et dans cet entretien, là, j'ai fait l'entretien parce que j'aimais son travail. Quand j'aime le travail de quelqu'un, je lui fais savoir par des mots. Récemment, j'ai écrit un texte sur le travail de Paul Pouvreau, Le Monde à plat, un livre qui venait de sortir. Quand j'ai vu le livre, je suis tombé des nues, et je me suis dit, bon, là, il faut que j'écrive, etc. Pour en revenir à Pierre-Lin Renier, j'écris un texte. On fait un entretien, comme ça. Et je titre, j'aimais bien les titres, je titre l'article de « L'élève et l'élève, ; paramètre flottant ». Par trois fois, le correcteur et la correctrice, ils étaient deux de la maison d'édition, m'a appelé en me disant, vous êtes sûr que c'est l'élève, c'est pas le maître et l'élève? Et je lui ai dit non. Par trois fois. Il a fallu même, j'avais peur que, derrière mon dos, ils mettent le maître et l'élève. alors que ça veut dire qu'à un moment, ils n'avaient pas du tout compris l'article. Parce que vraiment, c'était un vrai échange. Où des questions qu'ils me posaient, moi, j'ai essayé de lui répondre, et puis moi, voilà. Et pourquoi aussi, alors, ça peut prolonger ce que l'on va dire, et c'était ça aussi, c'est aussi ça l'enseignement, ces paramètres flottants, c'est un mot d'un psychologue cognitif des années 30, Bartfeld, je crois qu'il s'appelle, je vérifie le nom, qui a inventé ce mot-là. Il prend la métaphore du tennis. Alors moi, ça m'intéresse le tennis parce que, d'abord, c'est un service. Je vous envoie la balle, vous me renvoyez la balle. C'est un service, l'enseignement aussi, c'est un service, ça s'appelle le service public. Voilà, on sert, donc on attend le retour, sauf si on fait un ace, malheureusement. Et ce psychologue dit ceci, il dit, quand je tape dans une balle, je ne produis rien, mais je ne répète pas un mouvement. Je tape dans une balle, je ne produis rien, mais je ne répète pas un mouvement. Ça met à bas toutes les discussions en disant, il n'y a plus rien à faire, tout a été fait, je ne sais pas quoi faire, etc. Non. On va essayer de partir de ce qui a été fait et de prolonger. Et que, pour en revenir à mes cours, j'ai dû dire 10 fois, 100 fois, répéter cette phrase de Delacroix. Les hommes de génie sont ceux qui considèrent que ce qui a été fait ne l'a pas été suffisamment. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que la page blanche, c'est une vaste escroquerie. Il y a du monde, et qu'on doit prendre en charge ce monde-là. Il y a du monde derrière les peintures, derrière Malevitch. Quand Malevitch parle de l'or byzantin, des icônes, je me dis qu'il est allé chercher du côté de Byzance pour voir si son noir, il pouvait pas mettre un peu de jaune dedans. Et il a mis du jaune dans son noir. Bon, quel est le rapport entre la Byzance et Malevitch? J'en sais trop fiche trop rien, mais il n'empêche que c'est il y a quelque chose. On n'est pas seul, et que donc il faut connaître ça. Et donc l'enseignement, c'est aussi faire reconnaître à des jeunes gens ce qui a été fait, mais surtout que ce soit pas des facteurs de blocage, parce que si c'est facteurs de blocage, on est foutu. Mais partir de là et voir. Moi, j'ai toujours considéré. Je suis étonné quand je vois là récemment, je voyais des sculptures de Picasso, et je les mets en rapport. Mais je n'invente rien avec des sculptures faites il y a 2500 ans. C'est exactement la même chose. Et que, bien évidemment, Picasso part de là. Bien sûr. Picasso, récemment disait, parce que j'ai une amie qui travaille sur Picasso actuellement, qui a trouvé des textes de Picasso. Quand il visite Lascaux, il est bouleversé. Et il dit, maintenant, je ne peux plus faire un cheval. Depuis que j'ai vu les chevaux de Lascaux. Ben, c'est ça. Donc, c'est une espèce d'échange qu'il y a, et l'enseignement en art, c'est ça, cette chance-là. Et j'espère que ça va continuer. Je ne suis pas tout à fait persuadé, mais bon, c'est une autre paire de manches.
Et puis, il arrive, Christian Milovanov, que parfois, c'est la panne. On n'arrive plus à photographier. Ça vous est arrivé. Alors, vous avez des atouts. Quand vous ne photographiez pas, vous vous écrivez. On ne s'étonnera pas, au vu de ce que vous venez de nous dire, que votre livre, un de vos livres, s'intitule L'Ordre. L'Ordre, c'est une série de 5 nouvelles qui évoquent vos réflexions. Donc, le conte, le regard de l'autre, un mendiant dans le métro, deux passants qui se parlent, qui le regardent, qui vont comptabiliser sa trajectoire. Autre nouvelle, un homme qui a perdu son nom et qui, pour tenter de le retrouver, remplit des formulaires administratifs en vain. Essayer de mettre un nom dans une case, de le retrouver, mais ça ne reviendra pas. Il en trouvera un autre, cela dit. Une autre nouvelle, la panoplie. Un homme qui se calfeutre, qui s'enferme et qui se laisse mourir à petit feu. C'est assez triste. Comment c'est arrivé? Comment vous regardez ces nouvelles? Qu'est-ce qu'elles vous ont, cette écriture? Écrire, alors, qu'est-ce que c'est écrire? C'est, voilà, mettre de l'ordre dans des histoires, des pensées.
J'ai toujours considéré que du moins mon travail en photographie, mais ça c'est, je sais pas si c'est personnel ou pas, j'en sais rien, c'est un style de vie. C'est-à-dire que si je peux pas faire une photographie, oh, je ne me lamente pas, hein, c'est pas une panne, hein, au sens où on l'entend des filles, j'ai une panne, je sais plus quoi faire, va chez le garagiste, si tu as une panne de voiture. Donc quand je ne fais pas de photographie, mais je fais autre chose. D'ailleurs, je fais autre chose qui participe d'un travail de création. Et bien évidemment, ça a été l'écriture. Pour ça, j'écris parce que je lis, et je fais des photographies parce que je lis, et je lis parce que je fais des photographies, je sais plus, et donc à un moment donné je me suis dit, mais toutes ces histoires là que j'ai dans ma tête, je pourrais les écrire. Je vais pas surtout les photographier, je vais pas les illustrer par des photographies, surtout pas. Je vais les écrire, et je vais avoir le même, en définitive, acharnement dans l'écriture que je l'ai quand je fais des photographies. Et je vais bien évidemment avoir les mêmes obsessions, parce que comment voulez-vous que je fasse autrement, en écriture, les mêmes obsessions que quand je fais une photographie. Alors c'est peut-être pathologique, mais c'est comme ça. Mais là aussi, derrière, c'est... je crois qu'en quatrième de couverture, on a appelé ça... l'éditeur appelle ça des tableaux écrits. Oui, ce sont des tableaux, ce sont des récits, mais ce sont des tableaux de décomposition. Mais derrière ça, il y a énormément de lectures d'écrivains. Je lis beaucoup et tous participent de mon obsession. C'est pas que je vais vers eux. Là, je suis parano en disant ça. Mais je vais voir. Si d'autres n'ont pas partagé les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, Flaubert, bien évidemment Flaubert, Claude Simon, bien évidemment, c'est-à-dire la description, c'est-à-dire cette espèce d'épuisement dans la langue, mais ça se passe dans la langue. Moi, ce qui m'intéresse dans chez Flaubert, par exemple, mais je dis Flaubert comme je dirais bien d'autres écrivains, y compris contemporain, Daniel Mémoire actuellement, qui publie chez POL, là, c'est absolument, c'est bouleversant, c'est dévastateur, c'est fascinant. Mais on voit cette espèce d'acharnement, de rage dans l'écriture, de tordre le mot. Flaubert passait des semaines à tordre une phrase pour arriver en définitive à une simple phrase. Il y a quelques années, il y a eu un très grand penseur, je sais pas comment l'appeler, qui s'appelle, je crois qu'il vit encore, s'appelle Gérard Genette. Dans les années 70, a fait un travail remarquable, c'est-à-dire qu'il a pris les brouillons de Flaubert et il les a juxtaposés. Et il en a fait un texte apocryphe. C'est-à-dire qu'il prend par exemple une phrase de Flaubert, la description de Rouen, quand Emma va rejoindre son amant, et c'est une phrase quand les nuages descendaient de la haute falaise, etc. Et il a mis... bout à bout, il a fait un montage, bout à bout, de toutes les versions. Et c'est étourdissant. C'est étourdissant parce que on a envie de, on croirait lire du Beckett. Les répétitions, les cette espèce de d'obstination qu'il y a de tordre le mot jusqu'à ce que, ou la phrase jusqu'à ce que justement cette phrase puisse advenir. C'est ça aussi mon travail, mais c'est aussi le travail de Walker Evans, qui fait énormément d'images, qui tourne autour de l'objet pour enfin faire advenir ou pas une image. C'est ça le travail de l'art. Alors j'ai pas dit qu'il faut faire ça nécessairement. Hein. J'ai pas de leçon à donner, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais je m'aperçois que je suis pas seul dans cette aventure là.
Et vous continuez d'ailleurs à trouver des thématiques, à les épuiser, à les observer avec... À présent, on a moins de temps pour en parler, puisqu'on s'achemine vraiment vers la fin de cette masterclass. Mais tout le travail que vous faites avec l'image en mouvement, série formidable, qui est titrée par vous, formidable, au pluriel, que vous postez sur votre Facebook. Vous faites également une autre série, mais c'est encore autre chose, sur Instagram Ozo, mais j'aimerais qu'on puisse parler de cette image en mouvement, cette association d'images qui, de plus en plus, semble vous intéresser. Depuis la série Attraction de photos qui en rassemble plusieurs dans une même image, jusqu'à cette sélection ou cette série de mouvements.
L'aventure de Facebook est... on m'a demandé il y a 4 ans, on m'a dit mais pourquoi tu passes sur Facebook? Donc je suis allé voir Facebook et j'ai trouvé ça ignoble immédiatement. Voilà ma réaction première en me disant mais je vais quand même pas photographier cette bouteille pour dire que je suis là devant des personnes qui m'écoutent en disant regardez je suis là, etc. Bon, l'anniversaire de l'enfant, je trouve ça insipide, tant plus que j'ai pas d'enfant. Donc, et après je me suis dit mais non, il doit se passer. Et si on faisait de cet espace-là un lieu de travail, Là aussi, moi, si je peux pas travailler dans un, j'ai des mines.
Facebook, et donc, atelier. Hein? Facebook, l'atelier.
Voilà. Et donc, comme j'étais, comme je suis, que j'aime le cinéma, qu'il se trouve que j'ai une culture en cinéma peut-être, que j'ai une vidéothèque assez importante, je me suis dit, mais pourquoi je ne montrerai pas des moments de cinéma que j'aime? J'ai trouvé un texte de Roland Barthes, formidable, il parle de, à propos de Brecht, il parle de moments prégnants, des moments qui tout d'un coup, ah! Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais prendre ces moments-là, je vais faire ce que j'aime, des coups de cœur, et je vais les poster régulièrement, c'est-à-dire tous les 4 ou 5 jours, comme ça, comme une sorte de feuilleton. Et c'est plus qu'un feuilleton, c'est comme si c'était des courts-métrages, peu importe d'ailleurs de que l'on connaisse le film ou pas. Si on le connaît, tant mieux, mais si on n'est pas obligé. Donc moi, je revois tous ces films-là en même temps. Ça m'a fait du travail de les regarder et du plaisir. Et puis, je les poste, et puis ça vit. C'est bien regardé, c'est vu, c'est revu, c'est partagé, ça a du succès. J'ai pas d'ennui avec les droits de reproduction, c'est très bien parce que c'est totalement plus ou moins illégal. Jusqu'au moment où un ami qui est directeur du centre culturel de Phnom Penh, Bernard Millet, m'a dit, mais ce serait bien qu'on fasse une exposition. Et donc, je lui dis, mais tu es fou, quoi. Il me dit, non, j'ai 4 salles, 4 vidéoprojecteurs, débrouille-toi. Et donc, l'été dernier, à Pâques dernier, j'ai balancé en 4 salles tous ces films-là. Il y avait 10 heures de projection, mais comme c'était des temps, des salles, les temps étaient différents, donc c'était infini. Chaque fois que j'entrais, je voyais des montages totalement différents. Je voyais Pasolini côtoyer Godard, qui côtoyait Wiseman, qui côtoyait Bergman, Fellini et Bergman. C'est étonnant. Et ça fonctionnait. Donc voilà, c'est une sorte de plaisir. Il fallait que je fasse quelque chose et que je montre ces moments-là, qui sont des moments courts à nouveau, hein. Comme des tableaux, comme des moments de cinéma. Alors pourquoi je l'appelais formidable, c'est un clin d'œil à Serge Danet. Serge Danet parle de littérature et dit quand on lit un livre, on lit le même livre, mais après la lecture, on ne dit rien. Et c'est vrai que Quand on lit Madame Bovary, qu'on voit l'entrée de Charles Bovary dans la salle de classe, et qu'il bégaye, et qu'il ne sait pas dire son nom, Charles Bovary, vous le lisez, je le lis, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler de Flaubert, de son style, etc., etc. Quand vous sortez d'un film, vous voyez un film, et là, à ce moment-là, vous dites, ah! Oh là là, c'est incroyable. La pêche au thon dans Rossini, dans Stromboli, formidable. On ne dit pas plus, on dit formidable. Et donc j'ai appelé l'expression formidable.
Formidable. Merci beaucoup, Christian Milovanov.
C'était la masterclass de Christian Milovanov avec Aude Lavigne. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Shushan Jergaïan.